Vous savez, nous prêchons texte après texte la parole de Dieu. Et c'est vraiment un choix qui a été fait de dire, mais plutôt que chaque prédicateur vienne avec quelque chose qu'il a à dire, en fait, on veut juste écouter ce que Dieu veut nous dire. Et il y a des textes que l'on ne choisirait pas forcément. C'est un texte que je n'aurais jamais choisi. Et je suis content que le planning ou Dieu m'ait imposé ce texte aujourd'hui. Nous continuons dans la lettre de Jacques, au chapitre 4, à partir du verset 13. Nous prenons des tas de décisions chaque jour. Il y a des petits choix, il y a même des choix qu'on ne fait pas vraiment, en fait. De quel pied je me lève le matin? Je sais pas, il paraît que pour certains, ça a beaucoup d'importance. Ou des choix qui semblent insignifiants. Beurre ou confiture? Ou les deux? Des petits choix qui peuvent avoir de l'importance à long terme. Ou qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Ce matin, j'ai pris la chemise qu'elle a... C'était la seule repassée. Et puis, il y a des choix plus importants, en fait. Il y a des choix qui façonnent notre vie entière. Quelle étude je vais faire? Où est-ce que je vais habiter? Est-ce que je vais louer ou est-ce que je vais construire? Avec qui est-ce que je vais me marier? Quel engagement je vais avoir dans l'église? Oui, Olsion et Valérie ont résolu ça hier. Bonne chose de faite. Comment est-ce que je vais gérer mes parents qui deviennent âgés? Maison de retraite? Les prendre à la maison? Mais il y a une question qui se pose au travers de tous ces choix, finalement. C'est quelle place Dieu a-t-il dans ses choix? Et là aussi, nous devons choisir. Nous devons choisir de ne pas exclure Dieu et nous ne devons choisir d'exclure d'autres dieux. Nous devons choisir de ne pas exclure Dieu et nous devons choisir d'exclure Dieu. Lisons ensemble Jacques à partir au chapitre 4 à partir du verset 13. Pour ceux qui ont des petites Bibles comme la mienne, blanche, c'est à la page 798. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans une telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous, qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. À vous maintenant, les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries. Et vos vêtements sont rangés par les mythes. Votre or et votre argent sont rouillés. Et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs et dans le luxe. Vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie. Vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. Un texte dur, mais un texte qui aujourd'hui s'adresse à nous et nous invite à faire des choix. Choisir de ne pas exclure Dieu. Jacques débute cette section avec une première interpellation d'un groupe qu'il qualifie finalement par la façon dont ils vivent ou dont ils racontent leur vie. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans une telle ville, nous y passerons une année, nous ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent. Nous avons ici des personnes qui semblent être peut-être des commerçants, qui, passant d'une ville à l'autre, s'installent avec, pour un temps, avec l'objectif de gagner de l'argent, de faire des affaires. Mais ce n'est pas ce que notre texte dénonce. Le texte n'est pas en train de dire que faire du commerce et de gagner de l'argent, c'est mal. Le texte ne dénonce pas ce qu'ils font, mais l'attitude avec laquelle ils le font. Et plus précisément, l'attitude qu'ils ont vis-à-vis de Dieu. En fait, le vrai problème ici, c'est qu'il y a un grand absent. Et ce grand absent, c'est Dieu. Nous irons, nous resterons, nous ferons, nous gagnerons. Leur vie est parfaitement planifiée. Tout est absolument prévu dans les moindres détails. Mais encore une fois, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas un péché de réfléchir. Ce n'est pas un péché de mesurer. Ce n'est pas un péché de prévoir, de planifier, d'organiser sa vie. Le problème, c'est que Dieu n'est pas là dans toute cette planification. Il n'est même pas question, finalement, d'égoïsme. On aurait pu entrevoir ça si Jacques leur avait fait dire « Je ferai, j'irai, je resterai ». Mais ce n'est pas l'accent sur lequel il veut que nous regardions. Le « nous » désigne le grand absent. Le grand absent, c'est Dieu. Et Jacques en dénonce la folie. Regardez ce que dit Jacques. Il dit « Ils planifient à long terme en ignorant le lendemain. Ils agissent comme si tout était acquis. Ils sont remplis de force, d'assurance pour leur projet, alors que finalement, en réalité, la vie peut disparaître d'un instant à l'autre. Elle est fragile, comme une vapeur qu'on ne peut même pas attraper. » Jacques montre une distance entre ce qui est affirmé et ce qui est. Et cette différence, c'est le rejet de Dieu dans leur vie. Ce que vous devriez dire, si Dieu le veut, rejeter la volonté de Dieu, c'est rejeter Dieu, c'est l'exclure de sa vie. L'angle est celui de la souveraineté de Dieu face à nos propres projets. Ça évoque le désir de construire sa vie en allant là où on veut, plutôt que d'écouter Dieu. Et en plus, dit Jacques, mais vous êtes fiers du contrôle absolu que vous avez sur vos vies, de ne dépendre ni de rien ni de personne, une fierté qui révèle la haute estime qu'ils pouvaient avoir d'eux-mêmes, une fierté qui révèle l'arrogance de celui qui veut vivre sans Dieu. Mais encore une fois, la fierté n'est pas le problème. Le problème, c'est l'objet de la fierté. Paul était fier, fier des églises qu'il avait pu fonder. Mais il précisait que tout cela était dû à la grâce de Dieu. Il se glorifiait, pas de sa puissance, mais de sa faiblesse. Dans ses deux lettres aux Corinthiens, il cite la même chose. Il dit « Celui qui veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. » Nous avons en permanence des projets, c'est normal. D'accord ? Mais est-ce que Dieu en est exclu ? Est-ce que Dieu fait partie des choix que nous faisons ? Alors qu'est-ce que cela veut dire de manière concrète ? Comment est-ce que je vois ça dans ma vie ? Je passe un entretien d'embauche. Et si je suis embauché, c'est que c'est bon. Je demande un crédit pour acheter une maison ou une voiture. Et si le banquier dit oui, c'est que c'est bon, c'est que Dieu veut. On demande une place en maison de retraite pour ses parents. Et s'il y a une place, c'est un miracle. Et c'est que Dieu veut bien. Ça, c'est la méthode de la déresponsabilisation. Un autre choisit à ma place. Et ne vous trompez pas, ce n'est pas Dieu qui a choisi. En fait, celui qui a choisi, c'est votre banquier. Mais son objectif est de faire des affaires, pas de faire de bons choix pour votre vie. En fait, celui qui a choisi, c'est le patron. Mais le patron, il a un objectif de trouver un bon employé intelligent qui travaille dur et qui accepte de ne pas être trop payé. Son rôle n'est pas de faire des bons choix pour votre vie. et ainsi de suite. Ah ! Et si je prie en plus ? Alors que j'animais un groupe découverte il y a quelques années, pas 4-5 ans, je crois que c'était la première soirée qu'on faisait ensemble. Et une dame nous racontait qu'elle priait beaucoup à un Dieu. Et elle était toute heureuse d'illustrer cela en nous racontant comment Dieu lui avait révélé quelle voiture acheter. Alors elle est allée chez son garagiste, et c'était un garagiste qu'elle connaissait depuis longtemps et qui lui avait toujours rendu de bons services. Un garagiste qui avait tout l'air d'honnête et dont elle était pleinement satisfaite. Alors elle lui a demandé qu'est-ce qu'il pouvait lui proposer comme voiture d'occasion dans son budget. Et il lui a dit, si je me souviens bien, qu'il avait une Golf bleue et qu'elle serait parfaite pour elle. Elle l'a écouté et elle a dit, mais écoutez, il faut que je réfléchisse. Et elle est rentrée chez elle à pied. Et sur son trajet, elle a prié. Seigneur, si la première voiture que je vois est une voiture bleue, alors que c'est que la Golf, c'est vraiment pour moi et c'est ça que tu veux. C'est un bon choix. Mais la voiture qui est passée n'était pas bleue. Alors elle a continué de prier. Et elle a dit, mais Seigneur, je croyais vraiment que cette voiture était pour moi, alors je te le redemande maintenant. Si quand je passe devant la maison du voisin, le chien aboie, et je vous promets que c'est vrai, c'est que cette voiture, elle est pour moi. Et le chien a aboyé. Et elle était très fière de sa voiture, et aussi de sa relation avec Dieu. Regardez ce que dit notre texte au verset 17. « Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Ah. Il n'est pas en train de dire « Faites une prière et puis tout ira bien. » Il est en train de dire « Si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Et dans le contexte, faire le bien, c'est tout simplement donner à Dieu la place qui lui convient dans nos vies. La seule place qui convienne à Dieu dans nos vies, c'est la place de Dieu. Parce que Dieu est Dieu. La place qui convient à mon chien, c'est celle du chien. La place qui convient à Dieu, c'est celle de Dieu. La première place. Toute la place. C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est pas très concret, hein ? Est-ce que tu as donné la première place de Dieu dans ta vie ?
Oh oui, bien sûr. Il prend toute la place qu'il veut, d'ailleurs.
Et est-ce que tu fais ce qu'il veut ? Donner la première place à Dieu dans sa vie, ça veut juste dire mettre sa volonté avant la mienne. Faire ce qu'il veut, tout simplement. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est l'exemple suprême de Jésus-Christ qui a subi la situation la plus injuste qui puisse être sur cette terre. Il a pris la place de ceux qui avaient rejeté Dieu et il a subi le châtiment qui était réservé à ceux qui s'étaient rebellés contre Dieu. Pour qu'aujourd'hui nous puissions à nouveau intégrer le royaume de Dieu. Et ce royaume, ce n'est pas un jour au ciel. Ce royaume, c'est aujourd'hui et maintenant pour chaque personne qui a donné sa vie à Christ. Oui, mais moi, finalement, qu'est-ce que je sais de la volonté de Dieu pour mon travail, pour mon logement, pour mon conjoint ou encore une fois le sort de mes parents ? Si je ne peux pas prier Dieu en lui disant « si le chien de la voisine aboie, c'est que tu veux », comment je m'en sors concrètement dans ma vie chaque jour ? Comment est-ce que vous vous en sortez quand vous faites ces choix-là ? J'achète un appartement, une maison, quelques questions. Est-ce que c'est pas trop éloigné de l'église ? C'est vrai que plus la maison est loin de la ville, moins elle est chère, mais elle est aussi plus loin de l'église. Qu'est-ce qui va se passer quand le soir je vais rentrer du travail et qu'il va falloir que je fasse le chemin inverse pour retourner à la réunion de prière ? Est-ce que je pourrais encore participer à un groupe de maison? Je me suis mis au seul endroit où il n'y avait vraiment personne. Mais les terrains sont pas chers. Est-ce que l'emprunt que je vais faire va m'empêcher d'avoir une offrande à apporter à Dieu? Écoute, Dieu, je suis désolé, mais on se revoit dans 30 ans. Quand j'aurai fini de payer la maison. Je vais me marier. Mais cette femme ou cet homme va-t-il contribuer à ma relation avec Dieu? Vous savez, j'entends quelquefois dire « si elle est chrétienne, c'est bon » ou « si il est chrétien, c'est bon ». Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est indispensable et ce n'est pas suffisant. C'est indispensable et ce n'est pas suffisant. Mesdemoiselles, n'acceptez pas de vous marier avec un chrétien qui méprise Dieu ou l'Église. Un homme qui ne prie pas ou un homme qui ne vous conduit pas à aimer et obéir Dieu. Dites non, reviens plus tard. Réfléchis encore un peu à ta vie. Ce sera peut-être un homme bien un jour. Messieurs, c'est pareil. Si vous avez un doute, rappelez-vous de cette situation de Réjus d'Ipac. Cet homme peut changer et devenir un bon parti, mais mieux vaut ne pas le fréquenter tant que ce n'est pas encore le cas. Même chose pour vous, messieurs. Vous choisissez un métier, un travail? Bien sûr que vos goûts, vos talents, vos envies sont importants. Bien évidemment. Mais quel impact ce travail aura-t-il sur votre vie de foi? Sur votre éthique qui pourrait être mise en difficulté? Qu'est-ce qui se passera si vous savez déjà qu'on va vous obliger à travailler tous les dimanches matins? Est-ce que ça va participer ou est-ce que ça va rendre difficile votre vie d'église? Mettre Dieu au cœur de sa vie, c'est juste se poser des questions simples. Est-ce que mes choix favorisent ma relation avec Dieu ou est-ce qu'ils la détruisent? Mais ce texte va plus loin. Il dit que nous devons aussi choisir d'exclure les autres dieux. En fait, dans la deuxième section de notre texte, Jacques s'adresse à un second groupe. Et le ton est lapidaire, violent. Et Jacques ne laisse pas d'espoir à ce groupe. Il affirme qu'il est déjà condamné. Jacques n'appelle pas à ce groupe à faire le bien, mais à pleurer sur leur destin qui est à venir. Était-ce des employeurs hors de l'Église qui abusaient des chrétiens? Était-ce un groupe imaginaire que Jacques utilise pour étayer son propos? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'après nous avoir montré finalement que pour les chrétiens, exclure Dieu finalement de nos vies est un mauvais choix, il nous montre maintenant que nous pouvons inclure dans nos vies d'autres dieux que lui. Et ici, il se sert de l'argent pour nous montrer cela. Et si le premier groupe semblait un groupe aisé, ici, Jacques ne fait pas vraiment dans le détail. C'est à des riches qu'il s'adresse. Mais encore une fois, le problème n'est pas la richesse. Le problème ici, c'est que les richesses sont pourries. Et que même les vêtements qui ont été acquis grâce à cette richesse sont pourris. Et finalement, ce n'est pas seulement ce qu'il possède qui est pourri, mais tout est pourri. L'argent, l'or, même rouille. Jacques ici nous montre cette abondance de richesses inutilisées qui vient détruire. Ce gaspillage qui témoigne contre eux. Et puis ensuite, après nous avoir montré cette accumulation, il nous montre que quelque chose de plus hallucinant, c'est que ces gens ont amassé de l'argent et ne l'utilisent pas, il est en train de pourrir, et pourtant ils refusent de payer correctement les gens qui travaillent pour eux. Ils préfèrent amasser de l'or en vain plutôt que de payer décemment leurs ouvriers, à tel point que leur cri parvient au Seigneur de l'univers. Et il y a là un écho de l'Égypte. Vous savez, ces esclaves qui travaillaient toujours plus dur parce que le pharaon avait voulu les contenir. Et au bout d'un moment, leur cri monte jusqu'au Seigneur de l'univers, au Seigneur des armées. Ici, l'argent n'est pas un moyen de vivre, un moyen de faire du bien aux autres, il est un Dieu. Il est un Dieu auquel ils sacrifient leurs ouvriers pour vivre dans le luxe et les plaisirs. Mais pour Jacques, c'est comme si tout ça était déjà passé en fait. Vous avez vécu et le jugement est là. Et nous voyons dans la chair dévorée par le feu une image de la dureté de l'enfer. Comprenons-nous bien, la Bible ne condamne pas la richesse et nous montre même des exemples d'hommes fidèles, pieux, qui ont de grandes richesses et ne sont pas condamnés. Mais elle nous dit que la possession des richesses matérielles est dangereuse et elle nous en liste plusieurs dangers. Il y a notamment dans Deutéronome 8, alors que le peuple va arriver au pays promis, et que ce pays promis est censé être le pays de la prospérité, où ils vont pouvoir se multiplier, où ils vont pouvoir avoir du bétail qui va être nourri, qui va grandir, etc. Et la richesse est là, elle pointe son nez. Regardez, je lis dans Deutéronome 8, 11. Premier danger, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Garde-toi d'oublier Dieu et de vivre comme il te demande de vivre. Si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons et que tu y habites, si ton gros et ton petit bétail se multiplient, si ton argent et ton or s'accumulent, si tous tes biens s'accroissent, c'est pas un problème, hein ? Mais prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel ton Dieu. Deuxième, prends garde de ne pas te dire « C'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. » Solution, souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force pour parvenir à la prospérité et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi ses engagements qu'il a pris par serment en concluant l'alliance avec tes ancêtres. Mais si vous venez à l'oublier l'Éternel votre Dieu, conséquence, vous rendrez un culte à d'autres dieux et vous les servirez. Les dangers de l'argent. Et d'un autre côté, l'argent n'est pas un problème. Regardez ce que Paul dit maintenant dans sa lettre à Timothée. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches de belles œuvres, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Lorsque j'étais enfant, j'avais entre 8 et 12 ans, j'allais à Jura-Rosalie, peut-être que certains connaissent. C'est après Pontarlier, près de Balègue en Suisse. C'est une maison qui appartenait à une fondation qui s'appelait la Fondation Le Grain de Blé, qui a été instituée il y a un peu plus de 60 ans par un homme d'affaires suisse qui s'appelait Jean André. Cet homme d'affaires avait fait du business, du commerce. Il vendait du blé sur la terre entière et il était devenu, lui et sa famille, la quatrième fortune de Suisse. Un riche. Mais sa fortune acquise lui a permis de financer en fin de Seconde Guerre mondiale des camps pour recevoir les enfants nécessiteux. Et en 1948, c'est d'abord 120 enfants qui arrivent d'Allemagne, traumatisés par la guerre. Et puis ensuite, les portes s'ouvrent et c'est des enfants qui viennent d'Autriche, de France, d'Angleterre, d'Italie, de Grèce, de Pologne. Et puis ça continue à l'Est. Et plus de 29 pays ont pu. L'œuvre a pu se propager dans plus de 29 pays et des milliers d'enfants sont venus en Suisse pour des camps pour entendre l'Évangile. Notre attitude vis-à-vis de l'argent est un des meilleurs révélateurs de notre cœur vis-à-vis de Dieu. L'amour de l'argent n'est pas le privilège des millionnaires. On peut être au SMIC, au chômage, ou ne même pas avoir d'argent, et aimer l'argent que nous n'avons pas. Qu'est-ce que nous dit notre texte concrètement pour nous, maintenant ? Il nous met en garde. Lorsque nous aimons l'argent, c'est au détriment de notre amour pour Dieu. On ne peut servir deux maîtres, dit Jésus. Nous aimerons l'un et nous haïrons l'autre. De manière très concrète, notre texte nous invite à nous poser quelques questions sur notre rapport à l'argent. Et je voudrais juste vous en donner quelques-unes pour vous aider à réfléchir. Première question. Avons-nous tendance à l'amasser ? Et derrière cette question, est-ce que l'argent est finalement devenu ma sécurité ? Est-ce que je n'ai plus assez confiance en Dieu et finalement, c'est mon argent qui comble cela ? Parce qu'avec l'argent, je peux choisir de bons médecins, les meilleurs médecins ? Parce qu'avec l'argent, je peux avoir une maison et je suis tranquille pour longtemps, je sais où je vais loger ? Parce qu'avec l'argent, je peux manger à profusion, et finalement la prière « Donne-nous notre pain quotidien » ne me concerne pas tellement. Deuxième question, trichons-nous avec l'argent ? Une déclaration d'impôt un peu minorée. Du travail au noir, avec de bonnes excuses. Pour le faire passer. Vous savez, aujourd'hui, les bons garagistes, c'est ceux qui travaillent au noir. Moi, j'ai pas le choix. Moi, j'ai pas vraiment envie de travailler au noir, de faire réparer ma voiture au noir, mais les bons garagistes, c'est ceux qui travaillent au noir. Ouh, j'entends souvent, c'est là, excuse. Bah, de toute façon, l'État a prévu 30% de noir. Donc, si l'État l'a prévu. Excellente excuse. Est-ce que nous trichons avec l'argent ? Avons-nous du mal à être généreux ? Est-ce que nous avons plus de plaisir à dépenser notre argent qu'à le donner ? Dieu est-il la première de nos dépenses ? Ou est-ce que c'est une variable d'ajustement ? Dis chérie, cette mois-ci, là, j'ai fait un plein de mois avec la voiture, on pourra mettre 50 euros. Est-ce que Dieu est la première de mes dépenses ? Ou est-ce que c'est une variable d'ajustement à la fin du mois ? Comment est-ce que l'argent influence mes choix ? Est-il le premier critère pour choisir un métier ou un travail ? Vous savez, je travaillais il y a 15 ans de ça pour Schneider Electric. J'avais un salaire qui était tout à fait convenable. Et puis... Un jour, le pasteur de l'église est venu me voir, il m'a dit « Mais écoute, ce serait peut-être bien que tu changes de voie. » « Ah bon, ok. Et tu veux que je fasse quoi ?»« Bah, je pense que ce serait bien que tu sois pasteur un jour, que tu te formes. » Et... Ok. Et j'ai commencé à dire ça autour de moi. Et j'ai quand même pas mal de chrétiens qui m'ont dit « Mais tu sais ce que ça gagne, un pasteur ? T'es vraiment sûr de ton coup ?» Parce que là, tu viens de construire une maison il y a 2 ans. Tu sais ce que ça gagne, pasteur ? Ça gagne très bien sa vie, rassurez-vous. Si nous ne sommes pas maîtres de notre argent sera notre maître. Si nous ne sommes pas maîtres de notre argent sera notre maître. Quelques mots pour conclure. Ce texte peut paraître dur dans son ensemble. Mais finalement, que vous ayez choisi Dieu ou pas, que vous soyez chrétien ou pas ce matin, je crois que nous pouvons faire le même constat. Nous pouvons voir tous ensemble que quand nous vivons pour nous-mêmes, ce n'est pas le meilleur choix pour l'humanité. Et nous voyons ce que ça donne. Nous pouvons voir tous ensemble que quand nous vivons pour l'argent, ce n'est pas le meilleur choix pour l'humanité. Et il y a tellement d'exemples qui nous le montrent. Chacun d'entre nous peut décider de vivre pour lui-même, exclure Dieu de sa vie, choisir de vivre le moment présent pour son seul plaisir. Quelqu'un peut-il y voir une issue favorable à cela ? D'un autre côté, vous me direz que l'exigence de Dieu d'être le premier dans tous les domaines de notre vie, y compris dans le domaine de l'argent, vous semble peut-être un peu radicale et surtout insurmontable. Imaginez, vous vous présentez à un concours à la perche, de soie à la perche, et on vous met la perche à 10 mètres. Bon, juste pour référence, hein, le record mondial est détenu par Renaud Lavenny en 2014 autour des 6 mètres. Ça semble difficile de négocier, hein. Pas baisser un peu. Non, c'est ça ou rien. Tu sautes ou tu sautes pas. Et l'exigence radicale de Dieu, c'est un peu ça. C'est on voit ce que par nos efforts, nous pourrions arriver à sauter. Oh, est-ce que la barre, jusqu'à 1m50 pour moi. Je ne sais pas qui a dit peut-être moi. Je peux y aller, mais 10 mètres. Même Renaud Lavenny, il ne peut pas. Je ne peux pas satisfaire les exigences radicales de Dieu, mais Jésus, oui. Il a satisfait les exigences de Dieu et il a subi les conséquences de mon échec à ma place. Sur la croix, il a payé pour mon désir d'indépendance, pour mon désir d'être mon seul Dieu, moi. Sur la croix, il a payé pour mon problème de recherche d'autres dieux, de bonheur dans d'autres dieux. Aujourd'hui, il est au ciel, mais sa force est ma force. Il a laissé son esprit pour que j'apprenne dans cette vie à satisfaire les exigences de Dieu, à passer à chaque passage un peu plus haut. Et un jour, nous franchirons allègrement les 10 mètres. Nous n'aurons aucun problème à satisfaire ces exigences. Mais pour l'instant, avec Jésus, nous apprenons. Son esprit me dirige, il me conduit. Et lorsque je regarde les fruits de cet esprit, ils sont aux antipodes de l'indépendance et de l'idolâtrie. Le fruit de son esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ma prière ce matin, c'est que Dieu nous conduise à regarder nos cœurs. Dans quel choix, pas les choix passés, dans quel choix que j'ai à faire, c'est pas très beau. Maintenant, demain, après-demain, l'année prochaine, est-ce qu'il faut que je regarde comment Dieu peut faire varier ses choix ? Est-ce que je dois changer de travail ? Est-ce que je dois déménager ? Est-ce que je dois m'investir plus dans l'Église ? Quel Dieu dans ma vie est en train de m'arracher à la présence de Dieu ? Est-ce que c'est l'argent ? Est-ce que c'est la recherche du plaisir immédiat ? Quels sont les dieux qui sont en train aujourd'hui de m'arracher à Dieu ? Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce texte qui sont de nos cœurs et qui nous dit de regarder quelle relation nous avons avec toi. Et je te prie que ton esprit puisse mettre devant nos yeux les exemples qui sont devant nous et où nous pouvons intervenir, où nous pouvons changer les choses, où nous pouvons grandir avec toi. Et je veux te remercier parce que tu rends ce travail possible. Ce n'est pas par nos forces et par notre endurance et par notre dureté
que nous pouvons avancer, mais en acceptant de nous soumettre à ta volonté, en acceptant de te prendre en compte dans nos vies, en acceptant de te faire confiance que tes projets sont meilleurs que nos projets, que les plans que tu as tracés pour nous de toute éternité sont les plans dans lesquels nous allons nous épanouir, nous allons grandir avec toi. Notre Dieu, touche nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.